compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Deux façons de raconter le monde, dans une vision nocturne, avec l'espoir au bout de la nuit de reprendre sa vie en main. Dans une version diurne faite de poésie et d'humour, pour surmonter cette époque cruelle, la nôtre, dans deux films sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et puis à tous.
Un héros comme un révélateur de la nuit dans un portrait moderne de Paris, un médecin humain, trop humain. Bonjour Vincent Macaigne.
Bonjour.
Michael, c'est votre personnage dans Médecin de nuit d'Elie Wajsman, un type à la fois doux et violent. Un rôle que vous investissez complètement, oserait-on le dire, l'un de vos plus beaux rôles au cinéma. Médecin de nuit sort mercredi prochain. Tout comme ce film-là, l'histoire d'un homme obligé de cacher sa paternité pour trouver du travail, H24 et No Child. Bonjour Bruno Podalydès.
Bonjour.
Un résumé sommaire pour ce film, les deux Alfred, irrésistibles et poétiques, sur la puissance de l'entraide dans l'enfer de ce monde connecté. Les deux Alfred avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlin et vous-même, Bruno. Enfin, les sorties de ce mercredi entre Un discours et Des nomades en Amérique. C'est parti.
Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois. Vous pouvez m'expliquer le contexte?
Je suis souvent appelé par des usagers.
Vous parlez des toxicomanes?
Oui, des toxicomanes, oui.
Ils font circuler votre numéro?
J'imagine, oui.
Et vous leur prescrivez du Subutex?
Exactement.
Vous savez que 2/3 des médicaments de substitution se retrouvent sur le marché noir?
Oui, je sais.
Et ça vous fait pas peur?
Si.
Vous diriez que c'est une démarche politique?
Bien sûr que c'est politique. De soigner des gens dont personne ne se préoccupe, oui, c'est politique, oui. De leur donner des kits pour qu'ils puissent consommer sans risque, oui, c'est politique. Et ce que vous faites là, c'est politique aussi, hein. D'assigner des choses graves sur ma moralité juste parce que j'aide des gens qui consomment de la drogue dans la rue, c'est politique, oui.
Enfin, là, c'est une convocation de routine, mais méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête.
Le sujet est posé, celui de Médecin Nuit d'Elie Wajsman. C'est vous, Vincent Macaigne, Michael, qui, dans la nuit parisienne, soigne principalement les toxicos, mais pas que, entraîné par son cousin pharmacien Pio Marmaille, dans un trafic de fausses ordonnances de Subutex. Michael tiraillé entre sa femme et sa maîtresse. Ça, c'est un lourd programme pour un seul homme. Et pour un acteur, c'est un enjeu assez énorme quand même, non?
Non, mais c'est un cadeau énorme aussi, parce que c'est un film qui est rare, en tout cas pour moi. C'est ce genre de film un peu comme le nouvel Hollywood des années 70, comme ça, assez trépidant,
oui,
où il y a en effet une sorte de pari de faire un film qui est assez haletant, et en même temps d'avoir des moments, des bulles d'humanité, des bulles de réel, en fait. Et c'est un film dont je suis très très fier, en fait. C'est très rare, en fait, d'avoir la chance de pouvoir participer à un projet comme celui-là, pour un acteur.
Et disiez-vous, c'est la première fois que vous avez un vrai métier au cinéma.
Oui, c'est la première fois qu'on voit mon métier, quoi. Enfin, que je peux.
Le métier a une vraie importance.
Ouais, voilà. Avant, j'avais pas beaucoup de métiers où c'était une réplique du film. On disait, tiens, tu vas à ton bureau. Je disais, ouais.
Et on savait pas ce que vous faisiez au bureau.
Ouais.
Non, tout ça pour dire qu'il y a eu quand même une préparation, même une préparation médicale. Je suppose que vous avez suivi des médecins de nuit.
On a suivi des médecins de nuit avec Ellie. On a suivi aussi, les médecins du monde. Enfin, on a beaucoup travaillé. Moi, je sortais de L'Origine du Monde de Laurent Lafitte où je faisais à peu près 30 kilos de plus, donc j'ai dû perdre beaucoup de kilos en plus. Enfin,
perdre des kilos.
Pourquoi? Mais donc, c'était la volonté de qui, ça? Parce qu'au fond,
ouais, mais en fait, l'idée c'était quand même que j'aille vers un personnage beaucoup plus brutal, beaucoup plus dur.
D'accord.
Qui est comme presque fiévreux, en fait. Et puis il fallait tenir aussi cette énergie du film, parce que c'est un film qui a beaucoup d'énergie, qui est pas un film américain, ça veut rien dire, mais qui est vraiment un thriller où on est pris dedans, et il fallait rentrer dans cette chose presque transpirante et fiévreuse.
Et puis c'est un type aussi qui doit se défendre la nuit aussi, un médecin. Ouais. Par rapport au milieu dans lequel il évolue, il doit y aller.
Un médecin de nuit, quand il sort à une porte, il sait pas qui il va voir derrière.
Ouais.
Donc à des moments, et puis c'est un métier hallucinant parce qu'en fait c'est des gens qu'on appelle, on peut tomber sur quelqu'un qui a une crise d'angoisse, une crise de folie ou qui a une crise cardiaque pour de vrai. Mmh. Et il faut très vite discerner, très vite écouter, savoir très vite comprendre quoi faire et comment agir. Donc c'est passionnant et dans le film. On a vraiment eu, pas des vrais patients, mais des vrais gens, enfin entre guillemets des amateurs, et c'était très beau de les rencontrer.
L'étau se resserre donc peu à peu, c'est la loi du film noir, et notamment avec votre cousin, ce pharmacien qui a des dettes et qui vous propose et impose ce trafic.
Bon, qu'est-ce qu'il y a ?
Si, je suis désolé. Je comprends que tu veux arrêter maintenant. D'accord, je m'excuse.
Bon.
Je sais que c'est toi qui prends tous les risques, et je sais que tu fais ça pour moi. Je me suis mis dans la merde avec aussi peu.
Qu'est-ce que t'as foutu ?
Bah, j'ai emprunté du fric. Hein.
Putain, mais... Combien ?
Pas mal. Assez pour que ça me foute dans la merde. Il y a des mecs qui m'ont proposé de mettre de l'argent dans une boîte, qui achetait des médicaments en gros, on s'arrangeait avec les labos, on achetait pas cher, on augmentait les marges et je devenais riche. Quand je pouvais acheter un appartement à Sofia, c'est sous cette femme, c'est la femme de ma vie, tu comprends ça ? Avec la chance que j'ai eue, voilà, le truc, ça s'est cassé la gueule. Et aussi, pas voler à mon secours pour pas que je perde la pharmacie, c'est tout.
Mais qu'est-ce que tu fais avec le fric, Dimitri ? C'est quoi ton problème ? Tu me demandes de faire des ordonnances pour t'aider, moi je l'ai fait. On n'a jamais assez, il faut continuer. Moi je continue parce que j'ai peur pour toi. Hein. Là maintenant, tu me dis que tu dois rembourser un Georgien, mais Dimitri, je peux plus. Je peux plus m'occuper de toi.
Michael Vincent-Macken, c'est un type qui a fait des mauvais choix, en gros.
En fait, Michael, c'est quelqu'un qui a une grande empathie pour les autres, ouais. Pour ses patients. Ouais. D'ailleurs, c'est tiré d'histoires vraies. Il y a vraiment des médecins qui ont fait des ordonnances comme ça de Subutex. Mais le Subutex, c'est aussi un médicament. Et en fait, on imagine qu'il a commencé comme ça à faire des ordonnances pour aider. Et petit à petit, avec son cousin, il s'est noué dans une sorte de tragédie, de deal, etc. Mais le film, c'est un vrai film noir. C'est quelqu'un qui part de la nuit pour aller vers le jour, pour aller vers la lumière. Et qui fait tout pour aller vers sa famille, vers ses amis, vers l'entraide. Il part de la solitude pour aller vers les autres. Et c'est un vrai film noir au sens propre. Il y a les codes du film noir dans le film, en fait, avec son.
Il vous a fait regarder des films, par exemple, vachement, vous les connaissiez, Mean Streets, Le Flambeur, les Forbans de la Nuit. Et même, je pensais aux Scorsese, Bringing Out the Dead, là, sur.
Oui, c'est vrai, mais Scorsese, évidemment, Scorsese, ou même les films de Jacques Audiard, de Battre mon cœur s'est arrêté. Ouais. Je trouve que c'est des films qui auraient une sorte de parenté. Alors, je dis ça en toute humilité, parce que c'est des grands films, évidemment, mais...
Où le métier joue beaucoup d'importance, dans Debattre, par exemple. Il y a une dimension très très forte sur un métier.
C'est vrai, il y a ce grand point en commun, et puis le point commun, c'est qu'il y a une forme de tragédie. On sait que le personnage va quand même mal finir, et le film est une sorte de compte à rebours sur sa tragédie, en fait. Oui.
C'est un drogué de la nuit aussi, Michael.
C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, les médecins de nuit qu'on a suivis sont un peu drogués de la nuit. C'est une forme de, comme les chauffeurs de taxi, il y a une forme de communauté de la nuit. Ils se parlent entre eux, ils mangent entre eux. C'est une bande de potes, quoi. Donc, de sortir de là, de sortir aussi de cette toxicité. C'est pas toxique pour les vrais médecins de nuit, mais pour ce personnage de Michael, c'est aussi comment aller vers sa famille, vers le jour, vers la joie, quoi.
Aussi. Et puis rencontrer aussi des toxicos qui sont un peu, d'ailleurs, filmés. Usagers de drogue. Non, mais qui sont comme des fantômes. Hein. Ce sont des présences fantomatiques qui rendent réel, comme ce dialogue entre vous et cette jeune personne.
T'es jeune, tu peux t'en sortir.
Enfin, moi, je trouve pas.
Si, t'es jeune. Mais tu consommes depuis quand ?
Depuis le lycée.
Ouais.
J'ai commencé à prendre de la codéine avec une fille, puis après, on a découvert d'autres trucs.
Quoi ?
Prométhépam, lamaline, tucipax, oxy, diazépam.
Bon, vous auriez dû passer pharma, hein. Vous l'aurez sans doute eu. Et après l'essai, t'as fait quoi ?
Après, on est monté sur Paris, on vivait dans des squats, on fait du monde, des dealers, et puis on a vécu chez un Georgien aussi pendant quelques temps.
Bruno Podalydès, vous avez vu Médecin de nuit.
Oui, oui. Mais vous parliez de chauffeur taxi, ça m'a fait penser à Taxi Driver.
Bien sûr.
En fait,
mais oui.
L'idée d'être avec la solitude de quelqu'un, et surtout dans le monde de la nuit où la loi se dilue, la frontière avec la morale. Et c'est ça qui est très intéressant dans le personnage que joue Vincent, c'est le tiraillement entre l'éthique de son métier, l'empathie qu'il a avec les gens, aider son cousin, enfin Pio Marmaille qui est vachement bien dans le rôle. Et ça, j'aime que ça soit flou, que ça se balade et qu'il n'y ait pas de message, de morale. On est dans les contradictions tout le temps, quoi. Et à la fois bon et cogneur.
Oui. Il y a la dimension romanesque aussi du médecin de nuit, parce que c'est un peu le héros hein, qui débarque chez les gens. Ce qui est drôle, en général, quand on voit le médecin de nuit, les moments dramatiques, c'est avec les patients. Et vous, c'est vous le malade, en fait.
C'est vrai que ce qui est très beau dans le film, c'est que les moments avec les patients sont presque des moments de respiration du film. C'est des moments où le personnage a le temps de respirer. Il y a même une scène assez belle, je trouve, quand j'ai découvert le film, où il y a une dame qui joue du piano, on a l'impression qu'elle soigne le médecin, en fait. C'est elle qui le soigne en lui jouant de la musique.
On n'a pas révélé celle-là, on a révélé une autre scène dans laquelle vous êtes super humain, c'est avec cette vieille dame.
Je vais prendre votre tension.
Ah. Voilà.
Ça va ?
Oui, ça va.
Détendez-vous.
Oui, j'essaye, je ne suis pas jamais détendue.
Ah oui ? Pourquoi ?
J'en sais rien.
Vous me dites, si je sors trop fort.
Non, ça va.
Vous me frappez, ou vous criez, ou...
Non, je vous frappe tout de suite.
Vous plantez vos doigts dans mes yeux.
Ah, quelle horreur.
Ah, parfait, hein. 14-8.
14-8, c'est beaucoup, mais enfin...
Non, ça
va. C'est beaucoup pour moi, hein, mais...
Vous êtes angoissée depuis longtemps ?
Vous savez, je suis une angoissée de nature, mais... Là, je sais pas, ça m'a pris d'un coup, et puis j'ai eu cette crise d'angoisse comme ça.
C'est écrit cette scène ? Elle est écrite au cordeau ? C'est de l'improvisation ?
En fait, c'est une scène qui est écrite, mais évidemment, on l'a réimprovisée parce que la dame, elle me parlait. Enfin, c'était une vraie vieille dame, on était vraiment chez elle.
Elle est vraiment 14-8.
Elle est vraiment inquiète d'avoir Vincent Macken comme médecin.
Non, mais c'est vrai que du coup, elle parlait beaucoup, elle nous a raconté sa vie. Elle était adorable. Hein.
Mm-hmm. Il y a une petite odeur de sainteté quand même, non, dans ce métier parfois. Non, vous trouvez pas ?
Ce qui est très beau, moi, mon frère est médecin et il est médecin légiste. Mais c'est très beau parce que c'est des gens qui donnent leur vie à quelque chose qui est politique. Mais je trouve que il y a beaucoup de réalisateurs ou de metteurs en scène de théâtre qui donnent aussi leur vie à leur art d'une manière assez belle et sainte aussi. On peut pas comparer, parce que évidemment que d'aller soigner des gens la nuit ou de travailler dans les urgences des nuits entières, etc. Bon, c'est quelque chose d'énorme, mais c'est vrai que oui, c'est des métiers comme instituteur, professeur, enfin, etc. C'est des métiers fous où il faut des gens qui donnent leur vie aux autres en fait aussi.
Avant de commencer, vous avez lancé une petite bombe. Vous avez dit c'est la première fois quand même que j'ai l'impression de faire un vrai travail d'acteur.
Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai un vrai travail.
non, mais même de jouer vraiment, d'incarner vraiment, complètement.
Non, mais en fait, c'est la première fois que j'ai fait aussi un film aussi intense, parce que c'est un film où le pari de base était de tenir le film et de tenir le rythme du film. Et en fait, Ellie m'a demandé de prendre aussi quand même en charge cette chose que finalement, au cinéma, on demande pas tant que ça. On vient sur les scènes, on joue, mais... là, Ellie m'a demandé de rentrer dans le scénario, de me préparer, de bien comprendre chaque scène. On a tout débattu pour que je comprenne au mieux, en fait, les points de tension, les points de pression. Et ce qui était très beau, c'est qu'au bout d'un moment, c'est la première fois que je crois que ça m'arrive, l'histoire était devenue vraie. Enfin, Michael, j'ai l'impression que c'était une sorte de personnage qui était réel, qui existait, qui était à côté. Et on en parlait et on débattait de ce qui pouvait lui arriver comme si c'était une histoire vraie, en fait. Et c'est ce qu'on devrait tout le temps faire, finalement.
C'est lourd, on arrive à s'en débarrasser comment alors après ? Parce que... Il faut le quitter, ce personnage, quand même.
Non, c'est l'inverse, en fait. Je trouve que c'est une totale joie. Enfin, je crois que quand on est acteur ou metteur en scène, on fait ça pour ça. D'accord. On fait ça pour croire que tout ça est vrai, en fait. Même si c'est violent, non.
Ça s'appelle... Ouais, oui, oui, Bruno.
Non, mais je veux poser une question après avoir vu le film. On dit qu'un acteur est déterminé par, ou une actrice par son costume, notamment. Alors, donc, tu parlais de son métier, mais je me demande si on n'est pas déterminé par sa voiture. Là, la Volvo Break, est-ce que ça n'a pas influencé ton jeu?
Mais t'as raison, en tout cas, c'était une vraie... J'ai dû passer mon permis pour le film, d'ailleurs.
C'était
ultra important. C'est une révolution, ce film.
Et Ellie tenait vraiment que je passe le permis. Ouais. Et je l'ai passé, et je pense que ça a été vraiment symboliquement un passage pour Ellie. Même moi, je comprenais pas très bien, et je me suis mis même une vraie pression, parce que je me dis, si je l'ai pas, il va y avoir un énorme problème. Et aussi, en effet, le costume, les vêtements de ce personnage, à moitié médecin, à moitié loupard,
sa veste en cuir,
loulou, quoi, presque, de Piala, je pense. Enfin, il y a quelque chose où on sent qu'il peut être dans des milieux un peu interlope, et en même temps, on sent qu'il a fait des études et qu'il sait ce qu'il fait, donc ça m'a beaucoup aidé, ouais.
Et la Volvo Break, c'est une voiture très costaud, très solide, et qui peut embarquer beaucoup.
Je suis dégoûté, parce que j'aimerais bien en avoir une, moi j'en chercherai une, du coup. Je passe le message.
Vous pouvez nous écrire.
C'est le cinéma, la Volvo Break. On la voit dans beaucoup de films. Ouais.
Bon, bah, merci d'avoir passé le permis, parce que comme ça, vous avez fait ce beau film.
Merci d'avoir pris ses habits de
médecin ni d'élivage mat. Là, ce sont deux pères de famille qui se rencontrent à la garderie où ils déposent leurs enfants, Denis et vous-même, Bruno Bodalides, auteur de ce film, Les deux Alfred.
Je vous ai vu renifler le petit bonnet de votre bébé. C'est la première fois aujourd'hui?
Oui.
Bah, c'est pas facile, je comprends.
Bonjour.
Là, c'est pas les miens, alors ça va, mais au début, quand... Un petit café.
Ah oui, volontiers, oui. C'est un redémarrage, une renaissance même. Et en même temps, un saut dans le vide, dans l'inconnu. Un saut de l'ange.
Mais c'est quoi le poste?
Alors, j'ai rendez-vous pour un poste de reacting process.
De reacting
process. Bon, ne me demandez pas ce que c'est. En tout cas, le poste est remarquablement payé. Avec un bon fixe brut, sans compter de nombreuses primes annoncées.
Et vous avez le profil, hein? Quelques points forts?
Ah bah... L'honnêteté?
Oui.
La gentillesse? Et l'indulgence?
Alexandre, Denis Podalydès, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses propres enfants et être autonome financièrement. Et Alexandre va se frotter à la réalité d'un monde du travail connecté. Ce pourrait presque être le résumé d'un film de Ken Loach, comme le dernier, Sorry We Miss Yes. Mais vous, Bruno Podalydès, vous avez plutôt tendance à essayer de transformer en fait ces enjeux terribles en poésie et en humour. C'est comme ça que vous voyez le monde.
Oui.
Non, mais c'est vrai, vous transformez la cruauté de tout cela, la difficulté pour ce quinquagénaire de se réinsérer, et tout devient drôle. Les objets qui résistent, les mots stupides, tout est drôle.
Bah, c'est un peu malgré moi, franchement, hein, parce que j'aimerais être comme Ken Loach, avoir l'efficacité de Ken Loach. Je suis très admiratif de son approche.
Mais ça n'empêche pas l'efficacité.
J'espère qu'on n'oublie pas la cruauté de base. Ouais.
Ça n'empêche pas, pas du tout l'efficacité.
Non.
Au contraire, à la limite. C'est-à-dire qu'on peut peut-être même dire des choses plus profondes et plus dures avec le sourire. Ou avec
vous dites
un
même
ironie.
Que l'humour permet d'éviter le manichéisme.
Mais
oui, c'est vrai. Ça donne sa chance à tout le monde, y compris au sale type là, qui dirige cette boîte. C'est vrai.
Vous donnez le rôle de l'ange gardien. C'est très beau d'ailleurs ce rôle. Hein. Enfin, c'est vraiment un ange gardien, Archimboldo, entrepreneur de lui-même, comme il dit, qui donne l'illusion d'une certaine liberté. C'est presque une victime consentante de l'ubérisation. Hein?
Oui. Enfin, lui, de son côté, trouve une identité en multipliant les boulots, un peu comme le peintre où on voit tous les légumes, les aubergines, les carottes, et finalement, ça fait un visage.
Donc, lui
est dans la même approche. Je suis très content, vous disiez ange gardien, on me l'a jamais dit jusque-là, et c'était un de mes vœux. Donc, ça me fait plaisir.
Mais oui, c'est son sauveur, un peu. Alexandre découvre, lui, le monde des start-up au cours de cet entretien d'embauche à The Box.
Alors, qu'est-ce qui fait que ce serait vous? Parce que pour l'instant, j'avoue, j'ai un peu du mal à voir votre plus-value.
Je suis prêt à me réinitialiser complètement. Je peux faire reset sans problème. Je suis prêt à opérer toutes les mises à jour nécessaires.
Ah, mais vous avez la 3S? C'est l'ancien... Ah ouais, ça fait longtemps. Ah oui, c'était... C'est l'ancien modèle. Vous avez l'ancien modèle. Marrant. On cherche un go-between.
Un go-between ?
C'est-à-dire qu'ici, à The Box, on est l'interface. C'est-à-dire qu'on fédère, on dispatche. On fixe des OP. Des objectifs opérationnels. D'ailleurs, j'ajoute souvent OP mesurable par simple reacting process. Vous avez grandi où ?
Croisseuil, mais alors j'ai vite filé à Paris.
Croisseuil. Deux secondes. D'accord. Vous avez un carnet d'adresse là-bas ?
Carnet d'adresse ?
Non, mais vous connaissez des gens ? Vous avez des connaissances là-bas ?
Le maire est le fils de notre ancien médecin de famille. Mmh. Et pour info, la belle-fille de mon voisin de palier est la fille de Martine Aubry.
D'accord.
Il faut dire que le patron qui est génial, c'est Yann Frisch, et qu'il est magicien.
Oui.
Et que pourquoi recruter un magicien ?
Oui, quelle idée, hein. Mais en fait, je cherchais un jeune qui provoquerait chez moi de l'admiration.
C'est si difficile.
Non, du tout, mais je préfère prendre des gens que
c'est drôle. Admiration naturelle. Metteur en scène qui dit il veut admirer son acteur.
Oui, voilà, je trouvais que Yann pouvait passer pour quelqu'un de brillant, oui. Totalement.
Il vous a ensorcelé.
C'est vraiment un rôle de composition, évidemment.
Il a des yeux ensorcelants.
Oui.
On dirait Dominique Webb un peu.
Oui.
Ensorcelant.
Ouais, ouais. Et il a cette assurance pour beaucoup de magiciens qui ont un culot en général.
Il est très inquiétant aussi.
Oui,
inquiétant.
Mais ce monde des start-up, vous l'avez visité, je sais pas. Non, il y a des expressions extraordinaires, quoi. Turning desk, on se reschedule notre meeting.
J'ai mélangé vrai terme et faux terme.
On se keep in touch, go-between, interface, etc.
Et on me demande en débat reacting process, mais je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas ce que c'est.
Ça va rien dire.
Non, je dis n'importe quoi.
C'est venu du ciel,
mais c'est crédible.
Oui, ça fait crédible.
Souvent,
mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette espèce de langage idiot là, c'est une nouvelle version du paternalisme, en fait. Presque.
Alors, c'est en tout cas un management qui avance masqué. Ouais. Mais c'est sûr, quand vous imposez aux gens un certain vocabulaire, vous leur imposez une mode de pensée,
une
façon d'être mesuré, des objectifs, le benchmarking, qui est un mot qui existe et qui est quasi une idéologie qui prospère. Donc tout ça, effectivement, fait partie du maintien d'une certaine hiérarchie par ailleurs.
Il y a le monde intégré et le monde extérieur. Quoi. Enfin, on fait partie du monde intégré, sinon on est en dehors,
on adopte le langage,
on est exclu.
Mais puis le langage n'est pas innocent, parce que quand Denis dit je préfère toutes les mises à jour, etc., il parle de lui comme une machine, quoi. Et beaucoup de gens ont plein des vocabulaires de machine. Je suis en mode vacances, ou je suis en mode boulot.
C'est horrible.
On induit comme ça. Et à l'inverse, les machines, elles s'humanisent. C'est-à-dire que dans le film, la voiture autonome parle et on prête à l'iPhone, on parle à Siri, au langage intégré, là, comme si c'était quelqu'un. Quoi. Donc il y a un croisement, une frontière qui est floue. Ouais.
Mais le monde du travail, ça vous amuse, et puis ça vous... Depuis longtemps, dans vos films, d'ailleurs. Et vous avez d'ailleurs commencé comme réalisateur de films d'entreprise.
Oui, c'est en faisant des films de commande, on appelle ça des films industriels à l'époque.
Vous connaissez la machine de l'intérieur.
Exactement, j'aimais beaucoup découvrir des métiers très différents. Et pour rejoindre ce que disait Vincent...
je sens le truc arriver.
Non, mais tu disais que tu n'avais pas de métier souvent, et là tu étais content d'en avoir un. Ouais. C'est un des travers, surtout du cinéma français, je trouve souvent, c'est de ne pas montrer les gens au travail.
Oui.
On le dit, on l'évoque, mais on ne va pas... et c'est alors qu'on découvre à chaque fois des logiques invraisemblables. J'ai vu un ingénieur très ému parce que son bloc de béton s'encastrait parfaitement pour l'isolation phonique là, de l'autoroute à 86. Chef-d'œuvre. Mais donc je continue même de regarder des revues parfois. Je vous jure, Challenge, ou des trucs de cadre. Je suis étonné que l'idée de réussite continue.
Ce qui vous étonne, c'est de l'enthousiasme dans ce monde gris, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous étonne ?
Non, ce qui m'étonne, c'est le maintien de l'idée de compétition, de performance, alors même qu'autour de nous, ça craque de partout et qu'on devrait penser autrement. Et on pouvait espérer que la crise actuelles remettent beaucoup de choses. Ce que je crois quand même, je suis pas pessimiste là-dessus.
Ouais.
Je crois qu'on a été tous dérangés dans nos habitudes et du côté de l'entreprise, elle avait très très peur du télétravail avant. Elle pensait que les gens n'allaient rien foutre chez eux. Ils se sont rendus compte qu'à l'inverse, les gens bossaient trois fois plus, n'avaient plus d'horaires, ils étaient
ouais.
du coup bien plus rentables pour l'entreprise. Il y a eu beaucoup de paradigmes qui ont changé quand même. Donc je suis pas
De toute façon, on peut être un pessimiste de ce point de vue-là. Quand même.
Comment ?
De ce que vous racontez sur l'entreprise au télétravail, on peut être très pessimiste quand même. C'est pas une évolution qu'on peut souhaiter.
Non, c'est inquiétant, oui, le télétravail.
Ouais,
c'est
qu'il n'y a
plus de machine à café
pour
discuter des droits de chacun, enfin tout ce qui pourrait se passer dans la rencontre. Là, c'est sûr, si on est tous satellisés chez nous...
Moi, je trouve qu'en ce moment, le film est hyper intéressant pour ça. C'est que les gens ne prennent de moins en moins le risque de la confrontation...
Ouais.
humaine, réelle et physique,
oui.
et que tout passe par mail, par et ça c'est d'une tristesse absolue, mais absolue.
Oui, toi tu racontais tout à l'heure avant l'émission que tu avais été dans un centre d'appel pour parler directement aux gens et complètement.
Et personne ne te répond, on me dit d'appeler quoi, devant les vrais gens. Non, mais même dans tous les boulots, je trouve que le film raconte ça, et c'est qu'il y a moins en moins de rencontres. Là, c'est deux personnages qui se rencontrent, même avec Sandrine Kiberlin.
Ah là, justement, bah y a une...
et je trouve que c'est super beau et super juste. Je me suis dit, tiens, c'est une dystopie qui est... on est devenu presque pire que le...
Sandrine Kiberlin qui incarne Séverine, qui a la peur panique de perdre son travail, à cran, guindé, blindé, de principe, elle court après l'excellence et parfois elle pète les plombs.
J'aime beaucoup ce slow.
J'en ai marre, moi. J'en ai marre, là.
Vous en faites pas, je vais contacter un type là qui est très fort sur Win-Win. Il a tout un attirail, il est souvent hyper dispo. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais...
Oui, le genre de serrurier à 600 balles, quoi.
Oui.
Oui, bah moi j'en peux plus. Voilà, je suis fatiguée, je suis à cran. Je suis à cran, il y a ma banque qui me colle des agios, pas possible. Moi j'ai été cambriolée la semaine dernière, voilà. J'ai tous mes vieux mobiles à pointe qui se sont envolés comme ça, là. Et puis j'ai mon meilleur ami, je l'ai perdu, il est mort.
Non.
Si, il a été étouffé avec un bigorneau, c'était horrible.
Un bigorneau ?
J'étais avec lui, hein, il a fait fausse route, comme ça. Comme ça. Et puis bon, il y a ma perf individuelle qui chute, là.
Votre perf ?
Bah mon boulot de merde ! Et puis vous, là, vous êtes... Je trouve plus mes mots, là, vous êtes...
Ici ?
Non, vous êtes... Quand on n'est pas à la hauteur, là, vous êtes...
Petit.
Mais non !
Eh ben, bas.
Non.
Très bas.
Non, vous êtes décevant, voilà, vous êtes décevant.
Sandrine Kiberlin, merveilleuse Sandrine Kiberlin.
Ouais, ouais.
Elle est, enfin, je sais pas, elle est dans les nuances, dans la folie, dans la normalité, elle est merveilleuse.
Ah ouais. Et alors, comme partenaire, là, justement, cette scène, c'était, c'était tout simple, en fait, c'est ça surtout. C'est que juste, elle vous écoute, elle vous regarde, et donc, comme des musiciens jouent entre eux, quoi. Enfin, c'est une simplicité désarmante. Tu dis, ah, tiens, c'est fait, on l'a tourné.
Ouais. Vincent Macken, vous avez tourné avec elle, Sandrine Kiberlin.
Ouais, je viens de finir un tournage avec elle. Ouais, elle est géniale, ouais. Ouais, c'est très, très impressionnante. Ouais, c'est vrai. Très simple et impressionnante en même temps.
Mais c'est simplicité qui est impressionnante.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais.
Ah non, c'est. il l'adore, tu sais. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'elle est. Ouais, ouais.
Et puis il y a plein d'autres acteurs aussi, Loana Bajrami par exemple.
Ah oui, oui.
Ouais.
Oui.
Et puis dans le rôle du banquier Vuillermoz, c'est la même
du
famille,
complice.
C'est la même famille depuis longtemps.
Ben oui.
Ça vous rassure.
Ça me rassure pas. Enfin si, ça me donne ça
oui.
rassurer forcément.
Ben oui.
Ouais. Je les prends pas pour. Viens Michel, viens me rassurer.
Bien sûr que non.
Non, c'est un plaisir surtout. Et à chaque fois, je pense souvent. À eux assez tard pour écrire la scène plus librement, mais et puis je me demande toujours avec gourmandise quel va être le petit pas de côté qu'ils vont faire par rapport à la scène écrite. Michel, il rajoute toujours une petite étrangeté que j'espère dans un regard ça tient des petites choses, mais et qui emmène la scène vers presque son contraire parfois. Ça me plaît beaucoup ça.
Quand on recevait Denis Potalides en janvier. On lui disait, vous êtes acteur de théâtre, vous êtes acteur de cinéma et vous êtes acteur avec Bruno Podalydès. C'est presque un troisième métier. Écoutez sa réaction.
avec lui, je suis dans cette forme d'osmose, de gémellité. On a grandi tellement ensemble, on s'est tellement formé l'un l'autre. Il est mon aîné de 2 ans et j'ai collé à lui. Mais voilà, quand il est là, je suis un autre. Et donc, j'imagine que quand je joue avec lui, je suis plus peut-être son propre frère que je ne suis moi. Mais pour un acteur, c'est très bien.
Est-ce que ponctuellement, je pourrais rester dormir chez vous quelques jours? Parce que j'ai une amie qui m'avait passé son appart, mais elle est revenue ce matin avec son pédicure mexicain. Et du coup...
Oui.
Non, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. La vraie raison. C'est que quand je sympathise avec quelqu'un, et ben après je peux plus le quitter. Même 2 minutes, hein, j'ai envie de comprendre sa vie, de voir ses petits gestes quotidiens.
Oui, là je vais me laver les dents.
Ben, je vous suis. Je déconne.
J'adore cette scène d'amitié. Enfin, c'est très beau parce que c'est vous et votre frère et c'est vous deux, les deux personnages, tout se mélange.
Oui. Et j'étais comme ça, moi. Quand je m'attachais à quelqu'un, je ne lâchais plus. Ouais. Je me souviens une fois avec Eric et Mosnino. On a déjeuné ensemble. Et après, tu fais quoi, Eric? Bah là, je vais au Super U. Bah je t'accompagne. Et après, j'ai cherché mon enfant à. Ben on va à l'école ensemble et je suis resté dîner avec lui, après on a couché ensemble. Non, mais parce que j'avais envie de voir son quotidien, oui. Ça me plaisait de voir Eric faire les courses ou etc.
Mais c'est beau de jouer ça avec son frère aussi.
Avec mon frère on a fait ça tout le temps en fait. Nous, notre quotidien on l'a complètement partagé, on avait la même chambre alors. Là on était franchement.
On n'a pas dit aussi que c'était un film Les Deux Alfred sur la puissance de l'entraide. Super
qu'on
important.
Découvre, j'espère, dans le film.
S'échanger des choses, des services, c'est ça qui va nous sauver, non?
Ah, j'en suis persuadé, ouais. C'est pour ça que on dit Ken Loach est accablant, mais il y a toujours l'idée d'entraide qui arrive au cours de ces films, heureusement.
Et pour une fois, il y a le mot fin à la fin.
Oui.
Et pourquoi?
Parce que ça faisait cinéma. Ça faisait cinéma au sens, ça concluait quelque chose, j'avais vu une histoire pendant 1h30 et c'est terminé. C'était un peu en réaction aux séries qui sont à tiroir. Je suis plutôt anti-série, j'en regarde comme tout le monde. Mais j'aime assez l'idée d'un effet de rideau de théâtre, une sorte de joie dans la conclusion. Bon.
Ça vous parle, Vincent Macaigne, le mot fin au théâtre? Enfin, l'idée que le cinéma, c'est aussi du théâtre. Donc, on baisse le rideau.
Oui, c'est vrai, non, ça me parle. Mais après, j'aime bien quand même le cinéma, mon plaisir du cinéma, c'est de rester avec le film, à la fin. Donc, quand je vais dans une salle, j'aime.
Moi aussi.
Ouais. Et des fois, j'aime pas y aller avec des gens parce qu'ils me parlent.
Tout de suite, ils cassent.
Et alors, souvent, quand ils aiment, ça m'énerve et ça, j'ai l'impression de me faire voler mon amour du film.
Oui, c'est vrai.
C'est que quand quelqu'un aime, il dit, ah, c'est génial, je fais,
Vous allez aimer ces deux films, donc Les Deux Alfred, Bruno Podalydès et Médecin Nuit, Elie Wajsman avec Vincent Macaigne.
Allez les voir, s'il vous plaît.
Vraiment, vous restez avec nous. On se retrouve après Mathieu Bogart, Am I Crazy?
I like the blue. I don't like to choose between. I like the two. You see what I mean? I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I do. I like this tree. Am I crazy? Orange is nice, and so is yellow. Can't make my choice from my window. No better is no. black night coming soon. Ah, my loon. Oh, yeah. Singing in my bedroom. I like the blue sky and the sea. Only so beautiful to me. Am I crazy? Yes, today I do. I am crazy about this view.
Les sorties en discothèque nous racontaient son permis de conduire. Très drôle. Le discours de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne. Adrien est coincé à un dîner de famille. Son père ressort la même anecdote que d'habitude. Sa mère resserre le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir alors que son beau-frère lui propose de faire un discours de mariage. Laurent, c'est à l'origine un film, un livre de Fab Caro.
Oui, on n'a rien forcément a priori contre le boulevard et le théâtre de boulevard. On n'a rien contre Amélie Poulain ou les Deschiens quand ils sont mordants, ironiques. Mais le problème ici, c'est qu'il y a toutes ces influences-là, il y a toutes ces références-là, mais en même temps, tous, à part le héros, peut-être tous sont des crétins. Décérébrés, qui n'ont strictement aucun intérêt.
Que des manies.
Pardon ?
Ils ont que des manies.
Ils ont que, oui, exactement. Donc, ça, on ne peut pas s'y intéresser, même sous l'angle de la caricature, de l'humour, ce sont tellement des clichés inintéressants que ça en devient absolument répétitif. Et alors, on se dit, bon, ben, au moins, l'apothéose du film, ça sera le discours.
Oh là,
on attend. On attend. Eh ben, on a tort de l'attendre. Bref, c'est absolument poussif et sans aucun intérêt.
Benjamin Laverne, pourtant, c'est un grand acteur et En fait, on lui fait porter un sac bien trop lourd que personne d'autre, d'ailleurs, n'aurait pu porter.
Le livre de Fab Caro est très drôle.
Oui.
Moi, j'ai pas vu le film.
Moi aussi, j'ai lu le livre. Oui.
Il est très drôle.
Nomadland de Chloé Zhao. Une usine ferme, ses habitants s'en vont et une ville disparaît de la carte américaine. Et ce film, pour raconter l'un de ses habitants, c'est Fern Frances McDormand, qui choisit, après une vie dans cette ville, la mort de son mari, de prendre la route à bord de son van. Elle choisit le nomadisme. Le film est adapté du livre d'une journaliste qui a suivi plusieurs seniors devenus précaires. Fern, comme eux et avec eux, entre jobs chez Amazon pour empaqueter les colis, d'ailleurs une vision complètement folle de ses entrepôts, ou serveuse, ou ramasseuse de betteraves, entre Nebraska, Nevada, Arizona, Californie. Une poignée de pionniers 2.0, sans gloire, déclassés, cassés, que Frances McDormand regarde, écoute. C'est elle, notre guide. En fait, tout le film se voit dans ses yeux, moqueur, fatigué, empathique. Alors non, il n'y a pas de prise de risque narrative, j'ai pu le lire, pas de critique de fond du système, c'est vrai. Mais les images qui parlent d'elles-mêmes et cette idée, transformer cet état de fait, la crise, la déchéance sociale en une certaine forme d'ode à la liberté et à la solidarité, même si cela passe, c'est vrai, par des beaux couchers de soleil et des feux de bois sympathiques.
Oui, il faut quand même rappeler que Chloé Zhao, cette jeune réalisatrice sino-américaine, elle nous avait donné auparavant les chansons que mes frères m'ont apprises, d'une part, et The Rider de l'autre. C'est peut-être ce qui rend un peu décevant ce film-là, parce que moi j'ai trouvé qu'il ne s'inscrivait plus dans cette première filiation. Alors après tout, on peut dire, mais tant mieux, elle évolue, elle fait autre chose, c'est vrai, bon, elle fait autre chose. Mais alors cette autre chose-là, disons, peut-être est moins stimulant, moins intéressant, parce que quand même cette esthétique de pub à laquelle vous faisiez un peu allusion, et qui est quand même assez présente dans le film, il y a notamment des intermèdes routiers avec une petite musique de piano bar qui est vraiment limite, on se croirait dans la pub, je sais pas, d'une compagnie d'assurance,
ouais,
par exemple.
Ben, n'est pas maquillée.
L'actrice est formidable, c'est vrai. Ce qui me gêne encore plus, là où pour moi le malaise est grandissant tout au long du film, c'est qu'il y a une sorte d'éloge au fond de la fatalité. Voilà, on parlait de la façon avec Monopodalides de se dresser un peu compte, de voir un petit peu ce qui ne va pas et comment faire pour que ça aille mieux. Là, je trouve que le film s'enlise dans cette espèce de facilité de la fatalité.
Eh ben, c'est pas ni facile, moi j'aimerais pas être à leur place et je trouve plutôt de trouver de l'espoir là-dedans et de continuer malgré tout ce qu'on lui propose, de continuer ce cercle. dans l'Amérique est assez bon. Voilà. Je suppose que le prochain film va vous plaire beaucoup parce que c'est la vraie version de l'Amérique profonde. The Last Hillbilly de Thomas Jenko et Diane Sarabouzgarou. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce film. Ouais. Sur un peu des bouseux péquenauds des collines.
Oui, souvenez-vous, on avait rencontré ces deux auteurs à Deauville au moment où le film, comme celui de Bruno Podalydès d'ailleurs, devait sortir quelques semaines plus tard, manque de peau, la pandémie a fait en sorte que ça n'a pas été le cas. Non, c'est un film très intéressant, c'est un premier long métrage qu'ils ont réalisé sur 7 ans, sur une longue période d'imprégnation, effectivement, auprès de ces bouseux, de ces cutéreux, de ceux qui ont fait Trump, comme ils le disent eux-mêmes, hein, ils se vivent comme ça, et avec aussi les limites qu'eux-mêmes trouvent d'ailleurs à cette Amérique-là. Mais il y a un côté très mythique, très mythologique. C'est une Amérique peut-être effectivement du camp des vaincus, du sud contre le nord. Et il y a tout au long du film une sorte de très très belle mélopée poétique dite par l'un d'entre eux. Ça fait qu'on est bien loin d'un pur documentaire un peu sombre pour trouver une grâce et une véritable poésie. The Last Hillbilly.
200 mètres de Amin Nefer. En fait, c'est une famille palestinienne séparée par le mur jusqu'à l'accident du petit garçon.
Oui, alors on a presque l'impression d'avoir déjà vu, je dirais, hélas, ce film, parce que sur cette réalité du mur entre les Israéliens et les Palestiniens, et ce mur qui fait là 200 mètres et qui fait que le héros est à 200 mètres de sa famille, de sa femme et de ses petites filles, mais au fond, on sent bien que ça peut être 200 kilomètres, et le film montre ça concrètement sur la difficulté de cette situation. Seulement n'est pas Elie Souleymane qui veut, peut-être, c'est-à-dire que c'est ce grand cinéaste palestinien qui nous donne à voir des choses tellement acides, tellement ironiques. Là, on sent tellement une volonté de ne pas trop déborder, de ne pas d'évacuer presque toute tension, alors que le sujet est dans la tension, même devrait être dans la tension. Ça rend le film singulièrement plat, singulièrement trop gentil par rapport à la situation incroyable qu'il décrit. Ça s'appelle 200 mètres.
Juliana de Fernando Espinosa, Lima dans les années 80, maltraitée par son beau-père. La jeune Juliana prend la fuite et doit se faire passer pour un garçon pour intégrer un groupe d'adolescents.
Oui, alors c'est un film très curieux parce que c'est un film qui date de la fin des années 80 qui est inédit en France, hein, qui n'a jamais été montré, alors que c'était un des grands succès du cinéma péruvien parce que justement il avait une force incroyable. On pourrait presque dire que c'est Oliver Twist au pays de Buñuel, avec un Pérou et ses enfants des rues, une héroïne, Juliana, celle qui donne son titre au film. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une vraie sensibilité, une vraie attention aux enfants, et avec une capacité à décrire ce qui est insupportable comme réalité sociale, et en même temps des moments de bonheur et en même temps des rires. Voilà, cette façon très très belle de capter l'essentiel, qui est malgré tout la vie qui va de l'avant, et avec néanmoins un contexte social absolument déprimant. Ça s'appelle Juliana.
On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vite aller sur l'oubli que nous serons du cinéaste espagnol Fernando Trueba. C'est le portrait d'un héros dans la Colombie des années 80. C'est un portrait un peu beaucoup hagiographique et pas assez politique, mais à l'intérieur de ce film, il y a un acteur extraordinaire qui s'appelle Javier Camara. C'était lui l'infirmier de Parler avec elle de Almodovar, et pour exactement. Ça, non. On peut quand même rester sur l'oubli que nous serons. Jolie histoire bien déroulée. Le père de Nafi, vite Laurent,
oui,
de Mamadou Dia.
Premier long métrage sénégalais, très très intéressant, parce qu'au fond, il montre deux visages de l'intégrisme radical islamique, l'un qui compose et l'autre qui ne compose absolument pas, venant de ce pays, venant de ce territoire-là, et de quelqu'un qui a été journaliste avant pendant 10 ans, c'est tout à fait passionnant.
Trois reprises, Tom Foote de Bo Widerberg, à propos de l'euro qui repart là.
Oui, bah c'est quelque part charmant, voilà, foot et petit garçon, ça va très bien ensemble, et c'est une sorte de génie incroyable sur les terrains de foot, donc c'est une belle reprise, effectivement.
Un grand Zurlini, La fille à la valise.
Ah, quel beau mélo, Claudia Carnival, premier rôle, Jacques Perrin en jeune premier, absolument, 1961, le noir et blanc est sublime, le mélo est assumé, c'est tout ce qu'on aime de cette insondable mélancolie du cinéma italien des années 60.
Et un grand japonais, Mikio Naruse, baiser la mer.
1952, ça a été le début de la vague nippone en France. On a découvert ce cinéma-là, avec au centre, évidemment, la famille et cette espèce de mère courage, une incroyable subtilité, là aussi, un mélo émouvant, très très sensible, et un beau regard sur le Japon de ces années-là.
Et à partir de lundi jusqu'au 19 juin, le Festival d'Annecy, l'animation 11 longs-métrages qui concourt pour le Cristal.
Mais oui,
et
on
enfin,
ira à Annecy.
Des cadeaux pour nos invités.
Des cadeaux pour Vincent Macaigne, un film de François Truffaut, enfin. La peau douce. Il était tout seul, perdu. La peau douce de François Truffaut, chez Carlotta, magnifique édition, merveilleusement restaurée. Un très très beau noir et blanc, avec des bonus, dont un cinéaste de notre temps, vous savez, la série documentaire formidable télévisée. C'est un Truffaut, je ne sais pas si vous le connaissez, Vincent Macaigne, mais que je vous conseille de découvrir ou de redécouvrir. C'est peut-être un de ses films les plus personnels, tellement personnels, figurez-vous, qu'il se déroule dans le propre appartement de François Truffaut à deux pas d'ici. Et puis, pour Bruno Podalides, eh ben, je crois un cinéaste qui pourrait lui plaire, Buster Keaton. Il me semble que son univers n'est pas très éloigné. La croisière du navigateur, plus Sherlock Junior, c'est chez Lobster qui nous fait ce très très beau cadeau d'une superbe version restaurée, avec en plus des musiques d'orchestre inédites qui accompagnent ce Blu-ray DVD chez Lobster.
Merci Vincent Macaigne.
Merci
à Bruno Podalides, les deux Alfred, deux films à voir absolument à partir de mercredi prochain. On vous laisse le générique. Au revoir.
Alors c'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Hein.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacron.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Bruno Podalides, j'y étais ravi.
Et moi, Vincent Macaigne, j'y étais ravi.